BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, on sera avec David Garbouz, directeur marketing stratégique de Fleury Michon, qui viendra nous parler des nouveaux engagements de la marque en matière de nutrition. On s'intéressera aussi à la mode des podcasts avec Pauline Legnaud, cofondatrice de Gémio et créatrice du podcast Le Gratin, et Virgile Brodziak, le co-directeur général de J. Walter Thompson Paris. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Thibaut Chassagne, c'est le cofondateur de Virtuo. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les
BFM Business, HebdoCom, les news.
Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, dans l'actualité cette semaine, après une contre-performance au printemps, eh bien Publicis retrouve le chemin de la croissance.
Le géant de la publicité publiait cette semaine son chiffre d'affaires au troisième trimestre avec une croissance organique en hausse de 1,3%. Publicis bénéficie des nouveaux budgets remportés en début d'année avec Daimler, Carrefour ou Marriott. Et puis le groupe va poursuivre la réorganisation de ses activités en mettant l'accent sur la transformation numérique des entreprises.
Coca-Cola, de son côté, arrive en Formule 1 après un partenariat avec McLaren.
Et oui, c'est une grande première pour la marque. Coca-Cola va sponsoriser l'écurie dès ce week-end pour le Grand Prix des États-Unis. Le sponsoring ira jusqu'à la fin de saison. Le logo de la marque apparaîtra sur les combinaisons des pilotes McLaren, mais aussi sur les monoplaces derrière les roues avant. Des filiales de Coca-Cola seront aussi mises en avant lors des trois prochains de Grand Prix de F1.
Et puis Biocop dévoile son film manifeste.
Après avoir révélé sa nouvelle identité le mois dernier, Biocop fait son arrivée en télé et c'est une première en 30 ans. Mais c'est aussi un tournant majeur pour la marque. Biocop n'avait jamais communiqué sur ce média, sauf qu'aujourd'hui, la coopérative veut réaffirmer sa place sur le marché bio et surtout rappeler au grand public ses engagements.
On nous a dit que la norme, c'était d'avoir un patron qui décide. On a préféré être une coopérative où chacun a son mot à dire. Producteur, salariés, consommateurs.
On nous a dit qu'il fallait casser les prix des producteurs. On a préféré décider ensemble du prix le plus juste.
On nous dit que les consommateurs veulent manger de tout, toute l'année. On préfère leur proposer les fruits et légumes locaux et seulement quand c'est la saison.
On dit encore qu'il est normal de vendre de l'eau en bouteille plastique. On a décidé d'en arrêter la vente, même si c'était notre produit le plus vendu.
On nous dit qu'il faut tout emballer parce que c'est plus pratique. On pratique le vrac depuis 30 ans pour lutter contre le suremballage.
Et la campagne est signée par l'agence Hungry and Foolish.
Et puis nouvelle campagne aussi, Marie, pour Canal+.
Une campagne intitulée Canal+, créée et signée par l'agence BETC. La chaîne veut montrer qu'elle est toujours une référence mondiale dans la production de contenus originaux. La publicité plonge donc le téléspectateur dans l'esprit d'un créatif et nous dévoile son imagination débordante. Nous voilà donc au cœur d'un enchaînement de fiction où l'on croise les acteurs des séries originales de Canal+, notamment Versailles, Le Bureau des Légendes, ou encore Hippocrate.
Alors Frédéric Roy, les campagnes de Canal+, toujours quelque chose d'assez attendu et généralement d'assez réussi. Qu'en est-il cette fois?
Ouais, on n'est pas déçus. Hein. Ça doit être le budget déjà d'un petit film assez sympathique. C'est plutôt assez réussi. Je vais dire, c'est pas forcément celle qui m'a le plus épaté, mais honnêtement, c'est de très très bonnes factures.
Merci Marie Valogne, on vous retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine aujourd'hui, c'est David Garbouz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur marketing stratégique de Fleury Michon. Fleury Michon qui s'engage donc pour une alimentation plus saine, moins 25% de sel dans votre gamme de charcuterie, affichage des Nutri-Score sur vos produits. L'idée, c'est quoi? C'est de répondre à une certaine défiance des consommateurs vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire?
Oui, on a vu effectivement depuis une dizaine d'années une multiplication des questions et des scandales qui ont posé des questions. Et les consommateurs aujourd'hui, on a besoin de s'alimenter 3 fois par jour. Ils cherchent vraiment à avoir des certitudes sur ce qu'ils consomment. Et ils cherchent du coup des informations fiables, transparentes et claires. Le Nutri-Score, c'est un très bon exemple. C'est un indicateur qui permet de savoir d'un coup d'œil comment se situe le produit. On a décidé de la poser. Et effectivement, sur le sel, on sait aujourd'hui qu'on consomme un peu trop de sel en moyenne en France. La charcuterie fait partie des produits qui sont salés. Nous, on avait lancé des gammes de charcuterie en 2002. Ça avait eu un très très fort succès. Ça représentait à peu près 30% de nos volumes. Et on a beaucoup travaillé en recherche et développement. Et on sait faire aujourd'hui un jambon en sel réduit qui a le même goût qu'un jambon classique, par l'utilisation des bouillons. Et on s'est dit finalement, plutôt que de continuer à vendre trop de sel quelque part, si on basculait l'intégralité de l'offre en sel réduit, bah finalement, on clarifierait l'offre dans le rayon charcuterie et on permettrait aux consommateurs de manger mieux.
Mais sur le plan industriel, c'était pas compliqué parce que faire de la charcuterie avec moins de sel, ça pose pas des problèmes de conservation. Enfin.
Oui, c'est effectivement, c'est pour ça que ça a été un travail de longue haleine. C'est extrêmement compliqué, mais on a trouvé un réglage très fin. Alors les consommateurs nous demandent souvent si vous enlevez le sel, par quoi vous le remplacez. Nous, on a travaillé vraiment sur une logique avec des bouillons de légumes. On a travaillé pendant des années avec Joël Robuchon qui nous a beaucoup aidé. Je prends un tout petit exemple. Pour réduire le sel, on pourrait avoir décidé de le remplacer par un autre sel. Et ça aurait pu le même nom dans la liste des ingrédients. Nous, on a décidé d'utiliser des bouillons. Et par exemple, le céleri, qui est dans ces bouillons, quand vous croquez un morceau de céleri, il y a une note un petit peu salée en bouche. C'est pas du chlorure de sodium au sens strict, mais effectivement, ça donne une sensation très particulière. Et en utilisant du céleri, des carottes et d'autres aromates, on arrive à avoir une sensation très agréable en bouche sans avoir le sel.
Frédéric.
Alors pour populariser cette nouvelle gamme, cette nouvelle position en fait, c'est pas seulement une gamme, vous ouvrez un pop-up store, vous êtes toujours dans le régime de la preuve en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faut voilà.
C'est très juste, nous on s'est dit finalement pour convaincre les gens, la communication, les belles histoires, c'est plus suffisant. Il faut démontrer la façon dont on fait les choses. On a lancé en 2014 une campagne qui s'appelait Venez vérifier, en proposant aux gens de remonter de leur supermarché jusque aux matières premières, notamment en Alaska pour le surimi. Et la charcuterie, elle est exactement dans cette veine, c'est de dire finalement, venez voir comment ça se passe, comment on a réussi à faire, on va vous l'expliquer, on va répondre à toutes vos questions, et ce sera 19 rue de Palestro, effectivement, pour pouvoir recevoir à la fois des consommateurs, mais aussi des journalistes, des blogueurs, des toutes les personnes finalement qui se posent des questions sur l'alimentation et qui ont besoin de pouvoir avoir des réponses, d'interagir. Peut-être certains viendront nous proposer des idées, et c'est ça l'enjeu.
Et votre transformation se fait pas sans heurts, vous avez été jusqu'à claquer la porte de la Fédération de la charcuterie. C'est un coup de com' ou il y a vraiment une différence de point de vue entre vous et les autres acteurs de ce secteur?
En fait, vous savez, il y a un an, il y avait les états généraux de l'alimentation et on s'est tous mis autour de la table en se disant que pour réussir le pari de monter en gamme et d'améliorer la qualité de l'alimentation, il fallait qu'on soit tous dans la même direction. Et sur le sujet du Nutri-Score, justement, dont on parlait tout à l'heure, nous, on a pris position très tôt en disant qu'il fallait le mettre en place, même s'il n'était pas parfait. On souhaite l'améliorer en intégrant notamment les pesticides qui sont pas encore notés à l'intérieur. Et la Fédération de la charcuterie a pris une position officielle contre. Et pour nous, c'était pas possible d'avoir d'un côté une position d'entreprise et de l'autre la fédération qui disait l'inverse. Je pense, en fait, plus largement que dans l'esprit des états généraux, il va y avoir des nouvelles alliances qui vont se mettre en place. Il faut qu'on les mette en place. Des alliances plus horizontales que les alliances verticales que constituent les interprofessions. Parce que ce qui est compliqué dans une interprofession aujourd'hui, c'est qu'elle doit à la fois défendre des gens qui sont très volontaires et des gens qui ont des difficultés ou qui ne sont pas volontaires. Et donc, les positions sont un peu médianes et un peu molle parfois. Et vu les enjeux qu'on a devant nous dans l'alimentation, on a une transformation fantastique à faire dans les 20 prochaines années si on veut collectivement être encore là dans 20 ans. Et on peut pas prendre de position molle, il faut aller de manière radicale. C'est pour ça que nous on fait le sel de manière radicale, c'est pour ça qu'on affiche le Nutri-Score et on prendra d'autres initiatives bien sûr dans ce domaine.
Et il faut être courageux aujourd'hui pour être annonceur, j'ai l'impression, parce que vous prenez un risque en mettant dans les linéaires un jambon dans lequel il y a 25% moins de sel. C'est pas absolument évident. Donc le niveau du risque, il est quoi? Il est vous pourriez revenir en arrière en disant si ça marche pas, on remet du sel?
Vous avez raison. On est en train de basculer. Je vous cache pas qu'il y a une certaine fébrilité au sein de l'entreprise. Mais finalement, cette fébrilité, on l'a connue notamment quand on a lancé Venez vérifier en 2014, parce qu'on ouvrait les usines alors qu'à l'époque, personne ne les ouvrait. Et pour nous, finalement, c'est le signe qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Et les premiers retours qu'on a nous confortent plutôt dans cette voie. Bien sûr, j'ai pas encore de résultats chiffrés, mais c'est vraiment une décision qui va simplifier l'offre. Et je pense que ça nous rend aussi plus lisible auprès des consommateurs, parce que tenir un discours qui consiste à dire nous on fait du sel et puis aussi du sel réduit, choisissez, c'est vous qui choisissez. Là, on a la possibilité de leur proposer vraiment une gamme 100% alignée et on facilite le choix et en même temps on fait un vrai. C'est important que les gens se rendent compte qu'on n'est pas uniquement là pour défendre le business et les profits, mais qu'on est prêt aussi à prendre des engagements qui vont un peu plus loin.
Merci beaucoup David Garbouze, directeur marketing stratégique de Fleury Michon.
Merci à vous.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, nous retrouvons Charlotte Bricard de la rédaction de CBNews.
Bonjour.
What else cette semaine, Charlotte?
Eh bien justement, Nespresso, what else, qui sort un énième opus de ce que l'on peut bel et bien appeler une saga. Depuis le 17 octobre dernier, les fans de Georges Clooney ont pu retrouver leur héros surcaféiné, déguisé en preux chevalier qui, après avoir terrassé Dragon et sauvé son royaume, traverse le temps et l'écran de cinéma dans lequel il était pour parcourir New York en quête de sa tasse de café préféré, bien entendu. Un film qui, justement, met en avant la relation durable qu'entretiennent l'acteur avec la marque, très prompt à utiliser ce mot pour faire valoir son propre engagement en termes de développement durable, comme vous pouvez l'imaginer.
Oui, parce que le premier film, il date de quoi? De 2006?
Exactement, 12 ans déjà. Alors, à l'époque, Nespresso devait consolider son marché et surtout, également, justifier l'inflation considérable du prix des machines. Donc, l'agence McCann, avec qui la marque est toujours aujourd'hui, fait assez rare pour être souligné, propose à l'annonceur de s'offrir pour cette opération séduction à plusieurs millions de dollars l'un des plus grands séducteurs au monde, en tout cas dans les temps modernes plutôt, Georges Clooney, qui est fraîchement oscarisé pour Syriana et qui débarque donc dirigé par Michel Gondry dans un spot qui bouscule considérablement les codes du marché du café, avec une mécanique désormais iconique, une petite goutte de café qui tombe au ralenti et quelques notes de musique qui n'ont rien à envier à celles de la SNCF en termes de mémorisation. Exactement. Sans oublier une petite tasse d'autodérision dans un bol de premiumisation. Des spots qui rassurent les hommes, même George Clooney peut être ridicule, et qui n'oublient pas de flatter les femmes, toujours très à leur avantage et souvent dans une position dominante. Dès sa première année d'exploitation, excusez-moi, j'en perds le fil en pensant à Georges, le slogan enregistre un score d'agrément incroyable de 85% et la marque revendique des ventes en hausse de 44%. Un succès qui n'est toujours pas démenti aujourd'hui, puisque en 2009 déjà, 77% des Français avaient souvenir d'avoir vu un de ces spots.
Mais c'est beaucoup ça, 77%?
C'est énorme, c'est deux fois les standards, c'est deux fois plus que son premier concurrent. Depuis, les pubs Nespresso sont devenues presque plus attendu que les différentes variétés de leur café. La saga a d'ailleurs été sacrée meilleure campagne sur l'ensemble de la décennie passée. Et après les boutiques de luxe, on a vu Nespresso et George Clooney s'offrir les portes du paradis avec John Malkovich, ou encore s'entourer de Matt Damon, Jean Dujardin, et autres, Jack Blake, toujours dirigé par des réalisateurs du même acabit.
Et du coup, ils doivent s'en frotter les mains quand même chez Nespresso d'avoir choisi cette voie.
Oui, sauf que c'est pas vraiment eux qui l'ont choisi. En l'occurrence, ils peuvent remercier leur agence, qui à l'époque a eu le nez creux, puisque c'était un temps où on posait pas vraiment la question aux consommateurs des copies publicitaires. Ce que l'agence a fait en leur proposant de choisir parmi une douzaine de personnalités celles qu'ils voulaient voir sur cette scène. C'est donc eux qui ont choisi Georges Clooney. Voilà, preuve que quand on donne au public le droit de citer en publicité, l'effet peut être plutôt réussi.
Merci Charlotte Bricard.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le Zoom du jour autour des podcasts nouveaux modes de communication des marques. On en parle avec Pauline Léniaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Gémio et aussi créatrice du podcast Le Gratin et Virgile Brodziak. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de J. Walters Thompson Paris, agence qui vient justement de créer une entité spécialisée dans le contenu audio. Alors pour moi, les podcasts, il y a quelques temps, c'était tout simplement ce que le replay est à la télé pour la radio. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont devenus des contenus exclusifs qui sont produits pour des marques ou pour des personnalités. Virgile Brodziak, pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement aujourd'hui d'un seul coup pour les podcasts?
Je pense que déjà il y a un renouveau qui est dû à la manière dont on consomme le format. C'est vrai que le podcast il est né en 2008 avec iTunes et puis il est un peu tombé en désuétude. Et en fait la télé a, je pense, habitué les gens à consommer du contenu délinéarisé comme ça, que ça soit le streaming, que ça soit enfin des Netflix ou la catch-up et le replay. les forfaits de data qui permettent de streamer un peu partout dans la rue, et puis les grandes plateformes de streaming qui s'y mettent aussi font que le format, comme ça, connaît un regain d'intérêt de la part des consommateurs. Et donc forcément, il y a des audiences qui se créent, il y a des marques qui sont intéressées pour aller toucher en plus un certain type d'audience, et donc on voit des programmes là qui sont en train de se créer en ce moment.
Justement, Pauline Léniaud, vous avez lancé deux podcasts. D'abord, une série pour la marque de joaillerie Gemio, plus des podcasts personnels qui s'appellent Le Gratin. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce format-là ?
Alors, je suis tombée dedans un petit peu par hasard, mais comme beaucoup de personnes qui tombent dans le podcast, je pense que j'avais une envie de contenu qui était des contenus un petit peu plus longs, où j'allais vraiment apprendre des choses, pas forcément des actualités, mais vraiment des choses sur l'entrepreneuriat, sur, je sais pas, la relation de couple. C'est le cas, en fait, du podcast Chalalov qu'on fait pour Gemio. Et donc, tombant là-dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des contenus qui existaient, mais je me suis rendu compte qu'en France, il y en avait encore assez peu. Ça, c'était finalement en janvier 2018. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé mon podcast Le Gratin, qui a très bien marché rapidement. Donc lui, en fait, il va parler plus d'entrepreneuriat. J'interview des personnalités un peu remarquables dans différents secteurs. Ça peut être de l'entrepreneuriat, mais ça peut être des chefs cuisiniers, ça peut être des blogueurs, ça peut être beaucoup de choses. Suite à ce succès, je me suis dit finalement, pourquoi ne pas créer un podcast aussi pour la marque Gemio, donc qui s'appelle Chalalov, et qui parlerait de notre marque, de notre territoire de marque, en l'occurrence l'amour. C'est vrai qu'on s'adresse quand même à des couples qui achètent des bijoux. Et donc, ce sont des conversations, on va inviter des couples pour parler de leur relation, et toujours dans une optique de faire apprendre des choses aux personnes qui vont écouter. Donc on essaye vraiment d'orienter ça sur des sujets assez concrets. Donc quand vous avez emménagé ensemble, comment ça s'est passé, l'arrivée du premier enfant, qu'est-ce que ça a changé, etc. Et je remarque que les personnes qui écoutent les podcasts sont vraiment très friands justement de cet apprentissage, d'autant plus qu'ils peuvent le faire à n'importe quel moment. C'est ce que disait Virgile, la grande, je pense, nouveauté du podcast, c'est que vous êtes dans le métro, vous faites du vélo, vous faites du sport, vous marchez dans la rue, vous apprenez des choses en même temps, vous écoutez votre podcast en même temps, ce qu'on ne peut pas faire avec de la télévision par exemple. Donc c'est je pense la raison du grand succès du podcast.
Vos podcasts qui marchent super bien, ils sont super bien référencés, donc c'est bravo,
merci.
C'est très bien. Mais qu'est-ce qui fait
que ça marche?
Que ça marche, c'est quoi le secret, s'il y en a un, quoi?
Il n'y a pas de recette magique. Ce qui est évident, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut être assez sincère dans la démarche et que le contenu, il vous parle. Je pense qu'il faut que ça soit un contenu qui intéresse évidemment les audiences. Donc nous, le premier podcast donc sur le gratin, c'est interviewer des personnalités remarquables pour parler de leur réussite. Ça, c'est vraiment l'idée même en fait du podcast. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Le Gratin d'ailleurs, avec un peu d'humour. Et du coup, si vous voulez avoir cette conversation intime de quasiment une heure avec des personnalités qui vont vous raconter les moments difficiles, comment ils ont lancé au début, qu'est-ce qui les a étonnés, qui vont donner des vrais conseils concrets, ça c'est quelque chose qui est assez inestimable. Et ce temps long, on ne l'a jamais en fait dans un média traditionnel. Donc je pense que c'est ce côté très intime qui fait qu'on a quasiment l'impression de participer à la conversation qui plaît beaucoup. Et dans le cas de Chalalov, donc le podcast de Gemio, c'est la même chose en fait, mais plus sur des relations en fait. Et c'est vrai qu'en fait on se pose toujours la question de comment avoir une relation qui soit la plus belle possible et qui soit la plus longue possible. Et donc là, en fait, on va, par exemple, on a interviewé un couple qui sont ensemble depuis 68 ans, les personnes qui avaient respectivement, je crois, 88 ans et 82 ans. C'est une vraie leçon de vie, en fait. Donc ça, c'est des contenus, en fait, qui sont forts. Et je pense que c'est le contenu avant tout qui va faire que ça va marcher.
Mmh. Virgile Brosiac, qu'est-ce qu'elles viennent chercher les marques qui se lancent dans le podcast?
Alors, elles viennent chercher plusieurs choses. Déjà, elles viennent chercher une audience qui est assez particulière, parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui d'écoute et de consommation du podcast, alors sur les États-Unis, c'est beaucoup plus développé, c'est un Américain sur deux qui écoute du podcast. En France, on est à peu près à 10% de Français qui écoutent des podcasts, mais on est aussi sur des cibles qui sont du 30-49, urbain, centre-ville, grande ville, CSP+, et qui en fait sont des audiences qui ont délaissé la publicité dite traditionnelle, donc qui sont plus difficiles à toucher et qui coûtent plus cher. Donc déjà, il y a, par pur opportunisme, une cible qui est intéressante. Et en plus, pour un coût de production aujourd'hui qui est assez faible, en tout cas tout à fait raisonnable. C'est-à-dire que l'image, on le sait, la vidéo coûte beaucoup plus cher en production que du son. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut produire des podcasts de basse qualité, mais c'est ce qu'elles viennent chercher. Et puis ensuite, elles viennent chercher ce dont parlait Pauline, qui est aussi cette notion de temps long, de discours qu'on a le temps d'installer, de développer, qu'on peut construire à travers des séries, parce que le podcast, on s'abonne, c'est vraiment un épisode, donc c'est des choses qui vont créer des fils rouges comme ça de conversation avec les auditeurs et qui vont permettre de développer un message de marque comme on ne pourrait pas le faire sur un message traditionnel.
C'est justement ça, le message de marque, comment est-ce qu'on fait? Parce que un podcast, on est une marque, on est Gemio ou on est quelques marques que ce soit. On faut pas non plus raconter toutes les trois minutes, rappeler toutes les trois minutes le sens de la marque. Donc,
C'est du brand content.
Ouais.
Et toute bonne opération de brand content, c'est pas une signature publicitaire qu'on balance pendant 10 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut trouver un thème, il faut trouver un pilier dans la marque, un sujet dont elle est capable de s'emparer, sur lequel elle est légitime, hein, les couples, et Gémio, c'est un bon exemple. Et ensuite, construire à l'intérieur, avec un angle éditorial, avec des auteurs, quelque chose qui a la qualité pour aller chercher des audiences qui sont très exigeantes, parce que en fait l'audio, un mauvais podcast, ça pardonne pas.
C'est sûr. Comme il n'y a que l'audio, en fait il faut vraiment que le contenu soit réellement intéressant. C'est ce que je disais, et pour rebondir sur votre question sur qu'est-ce qui marche pour les marques, je pense que nous, ce qu'on voit avec Shalove, c'est qu'on n'a pas choisi de parler de joaillerie. On aurait pu, mais en fait évidemment on est légitime là-dessus. On trouvait que c'était un territoire qui était un petit peu trop restrictif, et donc on s'est dit, bah nous, notre plateforme de marque, c'est avant tout en fait de proposer notre vision de l'amour finalement aux personnes qui vont acheter nos bijoux. Et donc c'est une vision de l'amour qui est peut-être un petit peu plus moderne que ce qu'on peut voir sur une affiche un petit peu, on va dire, stéréotypique. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a voulu créer ce podcast sur cette thématique là donc ce que je dirais, c'est qu'avant toute chose, pour les marques, et c'est ce que je pense l'agence de Virgile fait très bien, il faut réfléchir vraiment en amont au territoire sur lequel la marque va s'exprimer, ne pas forcément vraiment uniquement vouloir parler de sa marque. Nous, on cite assez peu finalement Gémio dans le podcast, et c'est pas l'objet, les personnes sinon ne s'abonneraient pas.
Merci beaucoup Pauline Léniaud, cofondatrice donc de Gémio et créatrice du podcast Le Gratin, et Virgile Brodziak, directeur général de J. Walters Thompson Paris, agence qui vient donc de créer une entité spécialisée pour le contenu audio.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Avec Thibaut Chassagne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Virtuo, location de voitures nouvelle génération. Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors c'est très simple, on est une start-up qui existe depuis 3 ans maintenant, avec une promesse très simple. Il s'agit de louer une voiture, quand vous avez besoin d'une voiture pour quelques jours, grâce à une application smartphone. Donc en 3 étapes, vous allez télécharger l'application, vous inscrire, scanner votre permis de conduire pour avoir le droit de conduire, réserver la voiture directement dans l'application, et le jour J de la location, c'est là que la magie de l'application opère. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir votre voiture, la déverrouiller avec votre smartphone directement, grâce à une technologie Bluetooth. Donc concrètement, nos clients, qui sont des gens qui vont louer des voitures soit dans le cadre d'un voyage, en arrivant dans une gare ou un aéroport, ou soit en partant d'un centre-ville pour partir en week-end par exemple, accèdent à leur voiture littéralement en quelques minutes, en descendant du train, de l'avion ou au départ d'un centre-ville.
En fait, vous supprimez l'agence de location, quoi.
Voilà, on supprime effectivement l'agence de location, puisque notre technologie permet de se débarrasser de la clé, de l'échange de clé, qui est le principe un peu de l'agence, et qui fait qu'on perd du temps en faisant la queue dans une agence de location traditionnelle.
Alors, une fois qu'on a déverrouillé la voiture, on peut démarrer la voiture aussi avec l'appli ou pas encore?
Alors, on a la voiture, on la démarre en appuyant sur un bouton start and stop la voiture. Mais effectivement, on est le premier loueur de voiture au monde à avoir fait disparaître la clé de la voiture. Donc, l'application smartphone, c'est la clé de la voiture pendant toute la location. Et on a aussi une carte qui est dans la voiture, que vous trouvez dans la voiture, sur laquelle vous pouvez transférer la clé. Si vous avez besoin d'utiliser la clé pour la prêter à quelqu'un, par exemple, prêter la voiture à quelqu'un, ou pour un voiturier, vous avez cette carte en clé supplémentaire.
Mais comment ça se passe s'il y a, je sais pas moi, j'ai rayé la voiture, ou il y a déjà une rayure quand je prends, comment faire?
Alors, c'est un très bon point. Un des trucs les plus anxiogènes du process de location de voiture, c'est l'état des lieux. Donc nous, ça se fait directement dans l'application. Donc quand vous allez arriver devant la voiture, au départ de la location, on va vous montrer une liste de dégâts précédemment déclarés par les utilisateurs. Par exemple, le pare-choc avant est rayé, une jante est rayée. Et si vous découvrez vous-même un autre problème sur la voiture, une rayure, une petite rayure, vous allez pouvoir la prendre directement en photo par l'application. Donc c'est très rassurant pour nos clients, et ça évite effectivement le côté contrat papier avec 3 petites croix sur un schéma de voiture qui est pas très précis à ce niveau-là, et les risques que ça peut engendrer derrière de surfacturation, etc.
Alors vous lancez une grande campagne de communication, vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, bien sûr, donc Virtuo s'est lancé il y a 2 ans et demi, une croissance considérable, hein. On opère aujourd'hui dans 3 marchés, en France, en Angleterre, en Belgique. Et l'idée s'est passée à la phase supérieure, phase d'accélération. Donc pour ça, donc on a lancé une campagne de communication avec l'agence 84 Paris. Et l'idée, le thème de cette campagne, c'est l'allocation de nouvelle génération. Dans l'allocation de nouvelle génération, il y a deux choses. Il y a d'une part la technologie que je viens de vous expliquer. Et donc on pense que maintenant l'usage de location de voiture se fera de cette manière, technologique, avec un smartphone. Et l'autre aspect de la campagne, c'est nos clients eux-mêmes, cette nouvelle génération, puisque le client moyen chez Virtuo, il a une trentaine d'années. Et donc il y a cet enjeu de s'adresser à cette clientèle qui nous ressemble, hein, les équipes de Virtuo, et avec cette génération qui veut passer de la propriété à l'usage, avec des solutions très flexibles, de se dire qu'on n'a pas envie d'acheter une automobile, on n'a pas envie de s'embêter, surtout quand on vit en ville, avec toutes les problématiques que ça implique, que ce soit le coût, hein, c'est 8000 euros par an en moyenne, une voiture à Paris, quand on intègre le côté dépréciation, le coût de parking, l'entretien, etc. Donc on veut communiquer cette idée de liberté que la nouvelle génération de consommateurs attend. Et donc, c'est ce qu'on veut exprimer dans cette campagne que vous avez vue à l'écran.
Merci beaucoup, Thibaut Chassagne, cofondateur de Virtuo. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur BFM Business pour un nouveau numéro d'Hebdo.com.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.